Bonjour à tous. Donc ce matin, on continue avec l'étude d'un personnage biblique. Jusqu'à présent, on a fait essentiellement des personnages de l'Ancien Testament. Et donc ce matin, j'avais envie d'essayer de passer à un personnage du Nouveau. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un personnage qui soit qu'on puisse étudier, disons. Sans passer justement par des redites. Enfin, il y a des personnages qu'on connaît très bien dans le Nouveau Testament. On peut penser à Pierre, à Paul, bon, évidemment à Jésus. Finalement, quand on cherche un peu, on voit que beaucoup des personnages qui interviennent dans les évangiles ou ensuite dans les actes, on connaît très peu de choses sur leur vie. Souvent, c'est juste... C'est juste des passages. On a peu de renseignements. Et finalement, je me suis arrêté sur un personnage que je pensais finalement bien connaître. Et je me suis rendu compte que finalement, je le connaissais pas si bien que ça. Donc, ce matin, on va parler un petit peu de l'apôtre Jean. L'auteur de trois textes majeurs du Nouveau Testament, donc l'Évangile, évidemment, les trois lettres qu'il a écrites à des lettres circulaires, et enfin l'Apocalypse. Donc ce sont des textes majeurs. Jean intervient souvent dans les Évangiles, mais finalement, l'image que j'avais de lui, s'est révélée pas si juste que ça. Donc c'est pas souvent que, en tout cas pour moi, où je découvre des choses nouvelles, des choses que je connaissais pas. Quand on a quelques dizaines d'années de vie chrétienne et d'enseignement, on a du mal à trouver des choses dont on n'a pas déjà entendu parler. Et en étudiant cet apôtre Jean, je me suis rendu compte que l'image que j'avais de lui était pas juste. Dans ma tête, Jean, c'était quelqu'un de doux. Quelqu'un d'un peu effacé, un peu l'équivalent de, si vous voyez, entre Marthe et Marie, hein, ce sont deux personnages du Nouveau Testament qu'on connaît bien, donc Marthe très, très active et Marie qui était au pied du Seigneur. Et donc pour moi, Jean, c'était un peu comme Marie, celle qui était au pied du Seigneur et qui écoutait, alors que Pierre était plutôt celui qui courait partout en faisant du bruit. Et finalement, en lisant un petit peu les textes qui nous parlent de cet apôtre, je me suis rendu compte que cette image n'était pas tout à fait exacte. Alors d'abord, pour planter un peu le décor et rappeler ce qu'on sait de Jean. Donc Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques. Alors un des Jacques, hein, donc vous savez qu'il y a trois Jacques dans le Nouveau Testament. Donc là, celui-là, on l'appelle, la tradition chrétienne l'appelle Jacques le Majeur. Donc c'est Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean. Donc il va y avoir un autre Jacques, donc fils de Thaddée, qui est un autre apôtre. Et puis il y aura aussi Jacques, frère du Seigneur, qui sera un des leaders d'église de Jérusalem. Donc là, Jean et Jacques, fils de Zébédée, des pêcheurs. Des pêcheurs qui sont appelés quasiment au même moment que Pierre et André. Donc eux aussi, deux pêcheurs. D'ailleurs, ils se connaissaient. Le texte nous dit qu'ils, des fois, même ils travaillaient en association. Donc on voit leur appel. C'est donc au tout début de l'évangile de Marc, hein, ce passage où Jésus passe près du lac et voit d'abord Pierre et André en train de pêcher. Il les appelle. Le texte nous dit que Pierre et André répondent à leur appel. Le texte dit Jésus continue et puis il voit un peu plus loin. Donc Jean et Jacques avec leur père Zébédée et il les appelle. Jean et Jacques vont répondre aussi à son appel et le suivre. Donc le texte nous dit que ce Zébédée avait d'autres ouvriers que ses deux fils. Donc manifestement, Jean et Jacques appartenaient à une famille si pas aisée, du moins. Faisaient partie d'une... Enfin, ils n'étaient pas pauvres, c'était des gens qui étaient relativement appartenant à la classe, on va dire la classe moyenne. En lisant d'autres textes, en particulier donc l'évangile de Jean, on se rend compte que c'était pas la première fois que Jean rencontrait Jésus. Le texte nous dit que André et un autre disciple, alors cet autre disciple, on le comprend souvent comme étant justement Jean, donc André et Jean étaient des disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient suivi Jean-Baptiste pendant la durée de son ministère. Et André et Jean étaient là au moment où Jean-Baptiste a dit, en voyant Jésus, voici l'anneau de Dieu. Voici celui dont je ne suis pas digne de dénouer les sandales. Et en entendant ça, André et Jean vont suivre Jésus, vont aller chez lui, voir où il habitait, et entendre ce que ce Jésus avait à dire. André donc va même aller voir son frère Pierre pour lui dire, nous avons rencontré le Messie. Et c'est une des spécificités de l'évangile de Jean, c'est que contrairement au synoptique où la compréhension que les disciples vont avoir de la personne de Jésus va mettre beaucoup de temps à arriver, dans l'évangile de Jean, cette compréhension est beaucoup plus précoce. Donc Jean a déjà rencontré Jésus, il est retourné à son métier de pêcheur, et au moment où Jésus va l'appeler, eh bien, il va décider de répondre à cet appel. Et le texte nous dit que Jésus donc va renommer certains de ses apôtres au moment où il va l'appeler. Simon va devenir Pierre, par exemple. Et Jacques et Jean, Jésus va les le texte nous dit Jésus les surnomme Boanerges. Donc c'est un terme grec qui se traduit par fils du tonnerre. Fils du tonnerre, donc la plupart des commentateurs donc soulignent que cette appellation fait référence à leur caractère, à leur façon de réagir comme étant des personnes justement fougueuses, des personnes avec un caractère et une façon de se comporter très justement très explosive, très voilà, qui rappelle le tonnerre. Et on retrouve ce trait de caractère dans deux passages qu'on va lire rapidement. Donc le premier se trouve dans Luc au chapitre 9, où on va voir un Jean qui n'est pas ce Jean doux et dans l'introspection, ou disons dans le introverti qui passe du temps à écouter et à pas beaucoup parler, cette image que j'avais de lui. Donc je vais lire à partir du verset 46. Donc il s'élève entre les disciples une discussion, il s'agissait de savoir lequel était le plus grand parmi eux. Jésus, qui connaissait leurs pensées, qu'ils avaient dans leur cœur, prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui et leur dit, celui qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même, et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui sera le plus petit parmi vous, celui-là sera le plus grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne te suit pas avec nous. Jésus lui répondit, ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Donc première intervention de Jean. Donc le contexte, c'est un contexte habituel parmi les disciples, ils discutent pour savoir qui est le plus grand, et ça va être un sujet de conversation qui manifestement va revenir plusieurs fois, de la position dans la hiérarchie, dans la valeur que Dieu leur donne, et savoir lequel va monter le plus haut. Et Jésus donc leur rappelle à cette occasion que, et il va le faire à d'autres reprises, que celui qui veut être le plus grand, eh bien, c'est celui qui doit être le serviteur. Et Jean, dans ce contexte-là, va dire, il y a un homme qui est pas avec nous, qui est pas de notre groupe, et qui chasse les démons en ton nom, qui utilise ton nom. Et alors, moi, je l'ai empêché de faire ça. Je l'ai empêché parce que ça me paraissait, il suit pas la règle. Il n'est pas dans le groupe, il n'est pas dans le bon chemin, et donc moi, je lui ai interdit parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. Et Jésus va le reprendre en lui disant donc, que celui qui n'est pas contre vous est avec vous. Pour montrer que l'important, c'est pas le groupe. L'important n'est pas le groupe. L'important, c'est Jésus. L'important, c'est son nom à lui. C'est pas le groupe des disciples. L'important, c'est le nom de Jésus. Et j'aime bien, en lisant ce passage-là, me rappeler d'un autre passage dans l'évangile de Luc, un petit peu plus loin, où là, il est question de démons. Et Jésus va dire, dans ce contexte-là, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas disperse. Donc là Jésus fait la distinction en disant, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez, donc il y a un côté où c'est inclusif et un côté où c'est exclusif. Et Jésus va bien montrer que celui qui est au centre, celui qui conditionne le fait d'être, on va dire, dans la volonté de Dieu ou pas, c'est Jésus, c'est lui. C'est savoir où on se place par rapport à lui. Et c'est ça qui compte. Et Jean, donc là, est repris sur ce thème-là. On continue juste après. Donc là, je m'étais arrêté au verset 50, je continue au verset 51, toujours dans Luc chapitre 9. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent : « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement : « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Et ils se rendirent alors dans un autre village. Avant de commenter ce passage-là, je lis un autre passage, cette fois-ci dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Je vous avais dit que la question de la place et de la valeur était un thème qui revenait souvent chez les disciples. On voit ça par exemple donc dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 35. C'est un passage qui est repris dans les trois évangiles synoptiques. Preuve que ça a dû marquer les disciples. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent : « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit : « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ?»« Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit : « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder, ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit : « Vous savez ce qui se passe parmi les nations, ceux qu'on considère comme des chefs politiques dominent leur peuple, et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, au contraire. Si l'un de vous veut être grand, qu'il soit votre serviteur. » L'ambition de Jacques et Jean, dans le texte de Matthieu, il est même dit qu'en fait c'est la mère de Jacques et Jean qui va voir Jésus. On voit leur caractère à ces deux-là. Donc on voit un côté ambitieux spirituellement. Hein. Ils ne demandent pas des richesses, mais ils demandent à être au-dessus. Ils veulent être reconnu, glorifié, voilà, assis à la droite et à la gauche du Christ quand il sera dans sa gloire. Ils ont une ambition spirituelle, mais leur ambition, elle est mal placée. Et Jésus les reprend encore une fois en leur disant : « Bon, vous avez encore pas compris. Dans mon royaume, celui qui est grand, c'est celui qui sert. » Il va falloir le répéter, ça, hein, plusieurs fois. Donc de l'ambition, on va le dire comme ça, du sectarisme, d'accord ? Celui qui n'est pas dans notre groupe, on doit l'empêcher de parler, d'utiliser le nom de Jésus. De la violence. Les Samaritains n'ont pas voulu nous recevoir, mais demandons à Dieu de les réduire ensemble. Les fils du tonnerre, hein ? demandant à Dieu de les réduire ensemble. Quand on voit ces caractéristiques de Jacques et de Jean, ils me font un peu peur déjà. Je me dis, si ces gars-là se retrouvent à la tête de l'Église, pour moi, ça, c'est typiquement un chemin de fanatique. De fanatiques, hein. Ils sont prêts à tuer ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ceux qui ne sont pas dans le groupe, il faut qu'ils se taisent. Ils veulent être au-dessus des autres, c'est pas bon signe hein, quand même. Hein. Vous voyez ? Donc, moi, l'image que j'avais de Jean, de quelqu'un de doux et de proche de Jésus, dans ces passages-là, clairement, on se dit, il n'est pas si doux et gentil que ça. Et Jésus le reprend, hein, le reprend sévèrement à chaque fois. Et pourtant, Pierre, Jacques et Jean, d'accord, ces trois-là, vont faire partie du cercle le plus intime de Jésus. Au moment où il se passe des choses vraiment importantes, des choses qui montrent qui est Jésus, quelle est sa nature, eh bien, ces trois-là sont présents. Pour la transfiguration, ils sont là. C'est eux qui sont témoins de la glorification de Jésus. Au moment de la résurrection de la fille de Jaïrus, au moment où Jésus, là aussi, manifeste sa puissance et sa gloire, les trois sont là. Et puis, à Gethsémané, quand Jésus prie son père, quand il manifeste son angoisse face à la mort, c'est à eux que Jésus va dire « Priez ». Bon, on sait qu'ils n'y arrivent pas, mais c'est eux qui sont là. Pierre, Jacques et Jean, les trois plus intimes. C'est lui donc c'est Jean qui va être pendant la scène, c'est lui qui va être proche de Jésus, qui va manger, être proche physiquement de lui. C'est à lui que Pierre va dire, demande-lui qui est celui qui va le trahir. Et donc c'est Jean qui s'approche et qui parle à l'oreille de Jésus pour lui demander qui va le trahir. Les plus proches, alors que effectivement, c'est ceux qui sont les plus fougueux, les plus impétueux, ceux qui sont prêts à affirmer qu'ils vont mourir pour lui. Hein. Pierre le dit, hein, je suis prêt à mourir pour toi. Et Jésus va, vous connaissez là aussi l'histoire, hein, Jésus va lui dire, oui, mais non, tu vas me renier. À Jacques et Jean, quand ils disent qu'ils sont prêts à passer par le même endroit, par les mêmes épreuves que Jésus, Jésus va leur dire, c'est vrai. Vous allez traverser les mêmes épreuves, mais malgré tout, vous ne comprenez quand même pas ce que vous demandez et la portée de ce que vous demandez. Dans tout l'évangile de Jean, Jean n'est jamais nommé. D'ailleurs, son frère non plus, Jacques et Jean, ils ne sont jamais nommés explicitement. Ce prénom apparaît pas à part pour Jean-Baptiste, évidemment. Mais... Et la façon dont Jean va se désigner, il va se désigner comme... celui, le disciple que Jésus aimait. Et moi, jusqu'à présent, en lisant cette façon que Jean avait de parler de lui-même, j'avais toujours trouvé ça un peu déplaisant. Je me disais, bon, il est encore en train de se comparer, parce que j'entendais le disciple que Jésus aimait plus que les autres. Puisqu'on voit bien hein, qu'ils sont tout le temps en train de savoir lequel était le plus grand. Et en réfléchissant un peu plus à cette façon de se présenter, je me suis rendu compte que, bon, alors, effectivement, Jean ne cite pas son nom. Il n'a pas envie de mettre son nom en avant. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve un petit peu, justement, dans tous les personnages du Nouveau Testament, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on sait peu de choses d'eux. C'est pas eux qui mettent en avant. Quand ils parlent, quand ils écrivent, c'est toujours le Christ qui est mis en avant. L'histoire de l'Église... On a du mal à savoir qu'est-ce qui est arrivé à tous les apôtres, qu'est-ce qu'ils sont devenus, quel a été leur parcours, qu'est-ce qui leur est arrivé après. Le texte en parle pas, et donc après, évidemment, la tradition de l'Église, les pères de l'Église qui sont venus après, Clément d'Alexandrie, Irénée, il y en a un certain nombre, ont parlé ensuite deux, hein. Mais dans le texte biblique, c'est pas leur trajectoire qui est mis en avant. Quand Jean parle de lui à la troisième personne, sans se nommer, et quand il parle de lui comme étant celui que Jésus aimait, Moi, j'ai envie de proposer une autre lecture que celle d'une comparaison avec les autres. Et c'est plutôt une façon de s'identifier. Il est celui que Jésus aimait. C'est ça son identité. C'est ça sa façon de se percevoir lui-même. Pas comme étant Jean l'apôtre. Il était le disciple que Jésus aimait. Et c'est ça qui fait sa valeur, qui le fait être celui qu'il est. On voit apparaître donc Jean dans les évangiles encore une fois au moment où Marie de Magdala va voir les disciples pour leur dire que la pierre a été roulée, qu'elle n'a pas trouvé le corps de Jésus dans le tombeau. Et donc là, vous savez, Pierre et Jean donc partent en courant, d'accord. Pierre part le premier, Jean le suit, bon, manifestement, Jean court plus vite. Et donc, il rattrape Pierre. Et le texte nous dit, alors, donc Jean arrive, il s'arrête, il regarde, il rentre pas, Pierre arrive derrière lui, donc Pierre réfléchit pas, lui, il rentre, et là, Jean le suit, et le texte nous dit, donc Jean vit que le linge avait été roulé, et le texte nous dit, Jean vit, et il crut. Ses yeux s'ouvrent, c'est le premier à croire et à comprendre ce que Jésus leur avait annoncé, la résurrection, qui il était. Et donc Jean croit. Et on va retrouver donc ce binôme de Pierre et de Jean. Donc hein, vous vous rappelez, ils se connaissaient déjà depuis longtemps, ils pêchaient ensemble déjà. À cette époque-là, Jean a à peu près 20 ans. Donc Jésus en a 30 ans. Jean, lui, il en a 20. Donc, ils sont jeunes. Donc, Pierre et Jean, ils se tirent la bourre, hein, mais on voit bien que c'est des amis. Et ils vont faire plein de trucs ensemble. Et dans les actes, on les retrouve, tous les deux, à plusieurs reprises. Pierre et Jean, vont au temple, croisent un homme paralysé qui leur demande... Et à chaque fois qu'ils interviennent tous les deux, c'est Pierre qui parle, à chaque fois. Et Jean est là, mais le texte ne dit pas ce que Jean a à dire. Là, Jean se contente d'être là et de bon, d'être qui il est. Et c'est Pierre qui parle. D'accord. On a parlé de la Pentecôte hein, ce matin, donc là aussi, vous savez que au moment où l'Esprit vient sur les disciples, c'est Pierre qui va prendre la parole. Et on voit le changement, d'accord. C'est le changement d'attitude, de positionnement de Jean, celui qui était fougueux et prêt à faire descendre le feu du ciel sur les impies. Et Jean va être celui qui maintenant prend du recul et laisse Pierre prendre le leadership de cette église naissante. Et pour terminer avec l'aspect, on va dire, historique ou le parcours de vie de Jean, on va le retrouver dans les actes encore une fois. Alors, au chapitre 12 des actes. Le chapitre 12 des actes, c'est un moment de bascule dans la vie de l'église. Au début du chapitre, le texte nous dit que Jacques a été tué par Hérode. Donc Jacques, le frère de Jean. Jacques, donc tué par Hérode, la persécution commence, Pierre est emprisonné, et Dieu envoie un ange pour le libérer. Et le texte des actes nous dit donc que Pierre sort, d'accord. Donc vous vous rappelez, il va dans la maison où sont réunis les disciples, il tape à la porte, la servante ne le laisse pas rentrer... Et il va simplement leur dire, allez voir Jacques, donc Jacques le frère de Jésus, allez voir Jacques et dites-leur ce qui s'est passé. Et le texte nous dit, et Pierre partit ailleurs. Et à partir de là, la direction de l'église de Jérusalem va revenir à Jacques. Et le ministère d'évangélisation parmi les païens que Pierre avait initié, eh bien, va passer à Paul. Et à partir de l'acte 12, eh bien, c'est les voyages missionnaires de Paul qui commencent. Et la tradition, en l'occurrence, donc là, c'est les pères de l'Église, ceux qui sont arrivés, au, au, qui, qui ont écrit au IIe siècle, donc Clément d'Alexandrie, Irénée, Polycarpe, nous disent que Pierre et Jean, le texte, donc les Actes nous disent Pierre part ailleurs, la tradition nous dit partent à Éphèse. Et Pierre et Jean, donc, partent tous les deux à Éphèse et fortifient les églises, enseignent, forment. Et là aussi, Polycarpe, donc, qui a connu Jean directement, nous dit que c'est là, à Éphèse, que Jean va écrire son évangile, écrire les lettres, et donc va faire un aller-retour à Patmos, où il va écrire l'Apocalypse, avant de revenir à Éphèse, où les textes des pères de l'Église nous disent que Jean est mort à l'âge de 90 ans, vers 100 après Jésus-Christ. Donc, Pierre et Jean se sont pas effacés, mais ont laissé la place et sont partis enseigner et fortifier l'Église ailleurs qu'à Jérusalem. Donc voilà un peu pour le parcours de vie de Jean. Et ce parcours de vie se concrétise dans l'enseignement que Jean va laisser à l'Église. Donc on a vu que les trois plus intimes de Jésus, donc Pierre, Jacques et Jean, Pierre est devenu donc le leader de l'Église naissante. Hein. C'est lui qui a porté le fardeau de parler au nom de l'Église, de parler à la Pentecôte. C'est lui qui est le leader de cette Église naissante. C'est lui qui va initier l'ouverture de l'Évangile aux païens avec l'épisode de Corneille. On sait bien sûr. Alors Jacques, le texte nous dit qu'il est mort très vite. Qu'il a été tué par Hérode dans les premières années de la vie de l'Église. Bien sûr, l'autre grand personnage du Nouveau Testament, c'est Paul, celui qui va structurer la doctrine de l'Église, qui va structurer la doctrine du salut, qui va structurer aussi la vie de l'Église et son organisation. Et puis Jean qui va apporter quelque chose de fondamental. Dans l'enseignement de l'Église, dans la doctrine, c'est Jean qui va mettre en avant la divinité de Christ. C'est lui qui va affirmer sa nature, qui va affirmer Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu lui-même. Jésus est parfaitement homme, parfaitement Dieu. C'est son évangile qui permet qui permet d'asseoir cette compréhension que les hommes vont avoir de Christ. Alors je vais lire quelques passages donc dans les trois écrits de Jean, donc son évangile, ses lettres et puis l'Apocalypse. Donc pas beaucoup parce qu'évidemment on n'a pas le temps, mais juste pour vous montrer l'importance de ce que Jean va apporter à la compréhension que nous avons de Christ et de Dieu. Donc le prologue de Jean qu'on connaît tous très bien. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement il était avec Dieu, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jean va décrire la vie de Jésus d'une façon assez différente des autres évangiles. Alors on pense que c'est toujours difficile de savoir quand les textes ont été écrits. Donc il y a deux écoles pour la date de rédaction de l'évangile de Jean. Certains qui le situent assez tôt au moment de la destruction de Jérusalem par les armées de Titus et donc la dispersion des chrétiens un peu partout. Et puis la plupart le situent plutôt en 85 après Jésus-Christ, donc de façon plus tardive, donc écrit après les autres évangiles, à un moment où justement la question de savoir qui était le Christ, qui était Jésus, était un sujet de désaccord et de controverse dans l'Église, et où l'hérésie, alors on l'appelait docétiste, donc qui niait la divinité de Christ, en fait, prenait de l'ampleur. Et donc Jean écrit pour que tous les croyants puissent comprendre qui était le Christ. Et on trouve cette volonté d'explication, cette volonté didactique, on la retrouve dans ce qu'il écrit à la fin de l'Évangile. Donc on voit ça dans Jean, chapitre 20, et verset 30. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Au chapitre suivant, chapitre 21, et je lis les versets 23 et 24. Donc là, ça se situe tout à la fin de l'Évangile. Jésus parle à Pierre, le rétablit dans sa fonction, dans son rôle de berger et de conducteur de l'Église naissante. Il prophétise à Pierre qu'il va lui aussi mourir en martyr. Donc verset 19, donc Jésus par ces mots faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est ce même disciple qui rapporte ces faits et qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. Donc, ce passage, encore une fois, Pierre et Jean, lequel, hein, qu'est-ce qui va lui arriver, à lui, à moi, tout ça. Et Jésus en remet encore une couche, laisse-le suivre son chemin, et toi, suis ton chemin. Et ton chemin, c'est moi, suis-moi. Et Jean insiste, donc, une fois de plus, ne dit pas Jean, dit le disciple que Jésus aimait. Ce disciple a connu Jésus. C'était lui qui était près de lui au moment de la scène. Ce disciple a vu, et ce qu'il dit est vrai. Jean va insister sur sa proximité avec Jésus, sur son intimité avec lui, pour authentifier ce qu'il est en train d'enseigner, que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu, que c'est à travers lui que le salut vient dans le monde. Il va utiliser le fait qu'il connaissait Jésus et que Jésus l'aimait pour pouvoir témoigner de qui est Jésus et de témoigner de son intimité avec le Père. On connaît la prière sacerdotale de Jésus en Jean 17, qu'il soit un, donc Jésus, en parlant du Père, qu'il soit un comme nous, nous sommes un. Cette intimité que Jésus avait avec le Père et que Jean décrit le plus en profondeur et en détail, cette intimité que Jésus avait avec le Père et cette intimité que Jésus veut avoir avec nous. Je passe donc aux lettres, donc à Jean 1, 2 et 3. Les épîtres que Jean a écrites, des épîtres, des lettres circulaires, et qui là aussi sont écrites dans un contexte d'hérésie, toujours la même, toujours cette volonté qu'ont certains de nier la divinité de Jésus, dans une compréhension du monde où ce qui est spirituel ne peut pas s'incarner parce que donc c'est une espèce d'hérésie pré-gnostique, hein, cette façon de penser qui sépare le corps et l'esprit et qui explique que le corps n'a pas de valeur ni d'importance, et donc pour aller au bout de ça, et bien sûr, ces gens-là pensaient que Dieu ne pouvait pas venir s'incarner dans un être humain et dans un corps, et donc ils niaient cette divinité de Christ. Et donc Jean, encore une fois, va enseigner sur la personne de Christ et sur la centralité que Christ doit avoir dans nos vies. Il va expliquer que Christ est notre lumière, que c'est lui qui éclaire notre vie, qui nous montre ce qui est droit et ce qui est faux, ce qui est mauvais, que le critère de il va nous donner des critères en fait d'évaluation de notre vie avec lui, en parlant de d'obéissance et de péché, en parlant d'amour et de haine, en parlant d'erreur et de vérité, et à chaque fois l'obéissance est rattachée au Christ, à chaque fois la vérité est attachée au Christ, à chaque fois l'amour est attaché au Christ. Donc je lis quelques versets donc dans 1 Jean. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang pour nous, nous sommes purifiés de tout péché. Un peu plus loin, au chapitre 2, celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres, mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et par conséquent, il est dans la lumière, et aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Donc, l'obéissance, l'amour, et au verset 23, qui est le menteur ? C'est celui qui nie que le Christ, que Jésus est le Christ, car l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Donc la vérité, l'incarnation de Christ, son lien avec le Père, sa divinité. Donc toute cette vérité qui permet de savoir si nous sommes en communion avec Dieu. Et je termine avec l'Apocalypse. Alors je vais pas dire beaucoup de choses sur l'Apocalypse, parce qu'évidemment c'est un peu donc d'une part c'est compliqué, et ensuite ce serait long d'arriver à en faire le tour. Mais là aussi je vais simplement lire l'introduction, les 4 versets dans le premier chapitre de l'Apocalypse, où Jean va encore parler du Christ, encore parler de Jésus, et de ça, de qui il est, et de sa nature. Donc je lis au verset 4. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père, à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées, tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le début et la fin, le premier. Et ce qui est intéressant, donc, dans ce que Jean va présenter dans l'Apocalypse, c'est que Dieu règne dès maintenant. Bien sûr, l'Apocalypse parle du règne à venir, mais il parle aussi du règne ici et maintenant. Christ a vaincu et Christ règne aujourd'hui. Et l'Apocalypse est un formidable encouragement à vivre notre espérance aujourd'hui et à vivre cette victoire que Dieu nous donne aujourd'hui. En repensant à cette vision que décrit Jean, je repensais à la vision en opposition à la vision de de Daniel, où Daniel voit un colosse au pied d'argile. Et la vision de Jean est l'exact opposé. Jean, lui, voit un agneau immolé. Et la vision de Daniel représente donc ce colosse si imposant, mais qui va finalement s'écrouler. Et la vision de Jean montre cet agneau si faible, mais qui, lui, va régner pour l'éternité. Proximité avec qui est Jésus que Jean va vouloir partager en fait dans son évangile, dans ses lettres et jusque dans l'Apocalypse et la révélation des temps de la fin. Alors je vais m'arrêter là avec cette présentation de l'apôtre Jean, et je vais conclure simplement en vous laissant ce qui m'a finalement touché en préparant ce message, c'est que Jean se décrit comme celui que Jésus aimait. Et en faisant ça, je pense que, en tout cas moi je l'ai entendu aussi comme une invitation à m'identifier et à me percevoir comme celui que Jésus aime. Jean s'est appuyé sur cette intimité avec Jésus, sur cet amour que Jésus avait pour lui. Vous avez remarqué, il n'a pas dit « celui qui aimait Jésus », il a dit « celui que Jésus aime ». Cet amour de Dieu pour lui, cette intimité avec le Christ, c'est là-dessus qu'il s'est appuyé pour témoigner de qui était Jésus, pour témoigner de sa divinité, de sa proximité avec le Père, de sa toute-puissance, de sa résurrection, de son règne ici et maintenant. Il s'est appuyé là-dessus pour pouvoir témoigner. Et je crois que ce que ça m'encourage à faire, c'est la même chose. À me rappeler que je suis celui que Jésus aime, que je le connais, et que je peux témoigner de ça. Je peux témoigner de cet amour de Jésus pour moi. Alors que le Seigneur vous bénisse.